Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, on revient en 2026, hein, après avoir remonté le temps, effectivement, il y a 32 ans, à la mort d'Ayrton Senna, qui, on le sait, nous a tous et toutes marqués, évidemment. Mais j'avais 6 ans, je m'en rappelle. Oui, ouais, c'est un de mes premiers souvenirs de sport, je me rappelle. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? La mort en direct, c'est ce que tu disais, Marc. Hein, Marc Madio, David Douillet, Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Je me rappelle aussi de Roberto Baggio qui rate son tir au but en finale de la Coupe du Monde. Hop, terminé. L'étoile, elle est pour le Brésil.
Le Brésil.
94. Ah, mais le sport sont des marqueurs temporels de nos vies.
Bien sûr.
Des marqueurs de nos vies. Allez, les amis, je vous rappelle que vous pouvez écouter les deux premières heures en podcast sur toutes les plateformes. On a parlé de rugby notamment. On a parlé de Yannick Sinner à 3 semaines de Roland Garros et de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, les GG sur le buzzer. Est-ce qu'on sous-estime la difficulté d'un premier tour pour Paul Seixas alors qu'on attend une décision imminente sur sa participation? C'est vrai qu'on va voir avec tout l'enthousiasme. On s'est peut-être pas suffisamment concentré sur ce que ça représente vraiment au quotidien. En fin d'émission, participez aux GG du sport avec vos GG. Remportez votre badge de télépéage Fully crédité de 150 euros. Hein. Ça marche sur les autoroutes en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. Là, ça servirait bien à les équipes cyclistes, j'imagine. Hein, tout le temps en voiture, hein, passer les péages avec un télépéage crédité, un peu d'argent.
On est équipé,
vous êtes équipé. Bah oui, vous avez tous des badges télépéage. Vous.
Ouais.
Ah, vous prenez pas les tickets à chaque fois.
On l'a fait à une époque.
Ah ouais.
Ouais.
Ah,
tu devais avoir des présidents. T'as toujours ta grosse voiture. FDJ.
On est toujours en FDJ.
Groupama FDJ United.
Groupama FDJ United.
Ah, c'est très
United,
important.
C'est vrai. Donner... c'est vrai que FDJ United, ça gagne plus chez les filles que chez les garçons en ce moment.
Oh. Non, mais il est incroyable ça.
Et, pardon.
Et avec des amis comme ça.
Non, mais l'équipe
pas,
féminine est incroyable.
Elle est excellente. Elle est excellente. Domine, surdomine la concurrence.
C'est incroyable.
Mais bon,
bien sûr.
Ils gagnent toujours plus que toi qu'au jeu.
Ah, ça, tu vois. Tu vois, Marc.
Alors là, ça, c'est un.
Merci.
Les vrais amis. Voilà.
Merci Bennett, merci.
Il y a un classement des amis qui évolue aujourd'hui.
La caste des anciens sportifs.
Allez, on va participer au jeu. Appelez le 32-16, touche 4 pour envoyer sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tu mets des petits coups de rap comme ça.
Oui, il aime bien.
C'est inattendu.
Mais je l'aime bien, je l'adore, mon Marco. C'est...
Allez, tout de suite, les GG. Vous nous ouvrez la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous marque évidemment, c'est la demi-finale de Ligue des Champions. On a eu la phase aller, on en a parlé avec la victoire 5-4 du Paris Saint-Germain face au Bayern. Et on attend avec impatience le match retour mercredi à 21h à vivre sur RMC. Alors je voudrais qu'on parle de ça à travers vos expériences, les amis. Comment on aborde un match retour? Alors vous n'avez pas de match retour dans vos sports, hein, cyclisme, judo ou tennis, enfin, un petit peu quand même, mais plutôt la revanche. Ce qu'est la revanche dans le sport, à quel point ça sert de carburant et comment on se sert du match d'avant peut-être aussi pour aborder le suivant. Je voulais qu'on parle de ça ensemble. Tiens, David, toi dans ta carrière, la notion de revanche, la notion d'aller chercher le match d'après en se souvenant du précédent, comment tu marchais là-dessus toi?
Bah, en fait, j'étais pas dans l'esprit de revanche. Parce que si t'es, enfin pour moi, hein, si t'es là-dedans, t'es dans le, enfin ta base de départ c'est le passé. Or t'as le présent à gérer et ce que tu vas construire, donc le futur. Et revenir dans le passé pour faire des fondations de ce que tu vas faire là, j'ai jamais trouvé que c'était très très efficace. Voilà, moi je me forçais à me persuader, et c'était assez simple, que j'avais une nouvelle personne devant moi. Et en plus, c'était pas faux, parce que le type, depuis la dernière rencontre, avait changé énormément de choses, probablement dans sa façon de faire, son judo, sa tactique. Il avait élaboré sans doute d'autres techniques, etc., etc. Donc, il fallait aborder les choses d'une manière fraîche et nouvelle. Sinon, t'as un temps de retard, quoi.
Donc, attends, mais quelqu'un qui t'a battu, par exemple, parce qu'il y en a eu, hein, quand même, hein, dans ta carrière, en particulier, ouais, de ta domination. Mais quelqu'un qui, ouais, t'a battu, par exemple, t'as pas derrière, on va dire, ce carburant-là, de dire, ce mec m'a battu, j'ai envie de le taper derrière, j'ai envie de rétablir les choses, quoi.
Non. J'étais extrêmement concentré sur les points forts qu'il venait de montrer là pendant la compétition, dans les tours qui ont précédé le jour J. Tu vois, t'as toujours le temps d'observer ton adversaire quand tu le prends en demi-finale ou en finale sur les tours préliminaires. Et là, je me disais ah ouais, tiens, il fait ça, c'est nouveau.
Tu nous as parlé une fois d'un Géorgien qui t'avait tapé en début de championnat d'Europe. Quand tu le retrouves derrière. Tu penses pas à ça? Qui t'a émis une rousse, même. Ça existe.
Ouais, j'avais tout, quand je le reprends au championnat du monde quelques mois plus tard, je le rencontre en finale des Europes. Il me met une danse. Quand je le reprends après, j'avais toujours pas compris comment j'avais perdu au championnat d'Europe. Ça avait été tellement vite, j'avais rien vu, vraiment. Je m'étais retrouvé dans les luminaires du stade au championnat d'Europe. J'étais en planche en l'air et j'avais toujours pas compris. Et je le prends au championnat du monde. Et au championnat du monde, je me dis bon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai passé, alors au-delà de passer mes tours à moi où j'abordais d'autres adversaires, mais j'ai passé mon temps à le décortiquer ce jour-là.
Ah, quand même, le jour et, même. Ouais.
Oui, le jour même. Et bah oui, parce que ça sert à rien de prendre des informations qui sont passées, parce que il a encore pu évoluer. Ce qui est important, c'est d'avoir les données les plus fraîches à mettre dans ton équation, à mettre dans ton moteur. Et là, c'était le cas. Et donc, ça m'a servi. Parce que j'ai pas du tout placé mes mains sur son corps, sur son kimono de la même manière qu'avant, ce qui fait que en les plaçant différemment, eh ben il a pas pu lui-même mettre les mains sur son propre volant et tout de suite on était dans une situation où il a eu le doute, il pouvait pas prendre l'ascendant et je l'ai battu au final.
Mais ce qui prouve quand même que tu n'avais pas tout oublié non plus. Tu n'avais pas tout oublié non plus de votre confrontation. En tout cas, tu l'as observé derrière.
Et il a fait la planche.
Ce que je dis, c'est évidemment, tu peux pas oublier. Mais ça doit pas être la base. Ça doit pas être la source de ta motivation, ni même parce que t'as pas le temps. Bien sûr qu'il faut que tu le battes, tu le sais qu'il faut que tu le battes. T'as pas besoin de dire ah il m'a battu, je vais prendre ma revanche, etc., etc. Ça sert strictement à rien. En revanche, si tu te concentres sur le présent, t'as toutes les chances pour le coup d'être au rendez-vous.
Bennett, pour le coup dans tennis, je rappelle, on est sur comment on aborde une revanche dans le sport de haut niveau. C'est vrai que vous vous affrontez souvent sur le circuit. Est-ce que toi t'as eu des choses comme ça? C'est-à-dire face à un adversaire qui t'a embêté et que tu te dis bah, la prochaine fois il va falloir faire autrement.
Oui, mais alors c'est pas un esprit revanchard au sens propre qu'on peut l'entendre ou la cour de récré, tu sais, où on dit tiens, je vais prendre ma revanche, on a perdu au foot contre eux, on va prendre.
Et à côté, match retour quand même.
Ouais. Alors nous, il y a un côté où c'est d'analyser. Et d'essayer de faire des choses un petit peu différentes. Tu vois, c'est marrant parce que hier, il y a un journaliste du quotidien sportif qui m'a appelé pour préparer le match de l'équipe. Zverev, Sinner. Zverev, il reste sur 8 défaites de suite. Donc c'est comment, lui, il me dit que c'est un peu sa bête noire, le côté bête noire. Alors, comment tu penses qu'il doit aborder le match aujourd'hui pour essayer de qu'il y ait un résultat différent. Et donc c'est d'essayer de trouver des petites choses.
T'en as eu des bêtes noires?
Ouais, je pensais que j'avais gagné une fois, mais il y a un Finlandais qui est pas très connu qui s'appelle Jarkko Nieminen, et je suis à 6-0, 0-6. Je pensais que j'avais gagné une fois.
Tu l'as jamais battu?
Jamais battu, double pigeon. Parce qu'au tennis, quand on perd 3 fois de suite contre le mec, on dit qu'on est son pigeon, et quand tu perds 6 fois de suite, t'es le double pigeon. Donc je suis son double pigeon. Et Gilles Simon.
C'est sa petite poule, quoi.
Voilà, exactement. Et Gilles Simon.
Ça te rend pas fou, ça, justement? À un moment donné, ça te sert pas dans.
Mais si, ça rend fou, mais tu trouve pas la solution. Et Gilles,
tu as essayé de lui casser la raquette sur la tête.
Mais Gilles, j'ai perdu beaucoup de fois au début, et après j'ai réussi à gagner 2 ou 3 fois de suite. Et après il m'a rebattu. Et quand tu trouves une petite clé où il y a une vraie satisfaction parce que t'es obligé de changer des choses tactiquement dans ta manière de jouer. Tu sais que tes forces, lui, il les annihile naturellement. Donc et ses forces à lui t'embêtent vraiment. Comment tu fais et de chercher de jouer pas à contre-cœur mais ou contre nature mais d'employer une tactique qui est vraiment pas dans ton ADN entre guillemets, pas dans ton style de jeu naturel et de trouver des solutions grâce à ça, c'est aussi très.
C'est risqué aussi.
C'est risqué parce que mais t'es obligé à un moment donné. C'est-à-dire, il y a rien de plus bête dans la vie que d'espérer un résultat différent sans changer quoi que ce soit. C'est une lapalissade, mais c'est tu ne changes rien et t'espères un résultat différent, ben t'es un peu con, excuse-moi. Et donc
oui, c'est ça, oui.
C'est risqué.
C'est la définition du con.
Exactement. Ouais. C'est risqué, mais c'est nécessaire. Et au moins tu peux perdre.
Mais t'as tenté quelque chose.
Exactement.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la dimension, alors je sais pas si on va appeler ça la revanche, mais on va rester sur ce mot un peu valise là, mais il y a le côté peut-être de se dénaturer pour essayer de faire quelque chose de différent, finalement.
Ah ben,
de se réinventer.
Ah, mais
ouais. C'est-à-dire que la personne en face, t'as tellement fait déjouer que tu dois tenter quelque chose à l'opposé parfois de toi.
Exactement. Ouais. T'es tellement inefficace avec ce. Bah, tu fais quelque chose. Pour revenir, parce que là, on parlait du match retour Bayern-PSG. Je suis pas sûr que le Bayern, dans leur tête, ils disent, attends, on va prendre la revanche du match aller. Ils vont être, il y a un but d'écart, ça va être différent. Mais dans un esprit revanchard, entre guillemets, où trouver une solution contre un adversaire ou contre une équipe qui te pose des problèmes de manière récurrente, bah oui, t'es obligé de réfléchir de manière un peu plus élaborée et différente pour trouver des solutions.
Comment on aborde une revanche, un match retour, enfin surtout la dimension psychologique dans le sport de haut niveau. Marc, dans le cyclisme, il y en a eu des grandes rivalités.
Hein, oui, évidemment.
Il y a eu Coppi, Bartali, Anquetil,
Poulidor. C'est là-dessus que je voulais aller.
Ah ben voilà, non mais à quel point l'un alimentait l'autre.
L'un alimentait l'autre, mais surtout. En fait, quand on se retrouve dans ce genre de situation dans le sport, il y a forcément un moment ou un autre où il y a un ascendant psychologique. Et si on revient sur l'histoire Anquetil-Poulidor, Anquetil était entré dans la tête de Poulidor.
Anquetil a gagné 5 tours,
Poulidor 0, 0 maillot jaune, mais il a quand même été celui qui s'est rapproché le plus et celui qui a mis le plus en difficulté Anquetil, notamment en 64. Et je pense que Anquetil a été extrêmement machiavélique parce qu'en 64, il bat Poulidor de justesse sur le tour. Et en fait, dans les années qui ont suivi, Anquetil ne s'est jamais retrouvé en situation de jouer la gagne du tour. Et comme s'il avait fait abstraction de vouloir se retrouver à nouveau face à Poulidor. Et jusqu'à ses derniers instants de vie, Anquetil a eu cet ascendant sur Poulidor parce que quelques heures ou quelques jours avant sa mort, Anquetil a dit à Poulidor, tu vois, tu vas encore faire deux.
Non mais là pour le coup c'est intéressant.
Et c'était
parce
la réalité. Et Anquetil est décédé quelques heures ou quelques jours plus tard. Il se savait condamné. Et Poulidor a encore fait deuxième.
Dans son identité de champion, il y avait la rivalité, le carburant de la rivalité. Toi, t'as eu des rivaux?
Non, moi, je me suis pas retrouvé dans ce genre de situation. Mais il y a eu d'autres cas, d'autres histoires dans le cyclisme. Par exemple, en ce moment et en cyclocross, tous les hivers, on a Wout van Aert contre Van der Poel. Et là, on a vraiment un match. En tête à tête, mais en cyclisme c'est assez rare les tête à tête. On l'a en cyclocross. Ouais, c'est un peu plus compliqué. On a Pogacar avec.
Marc, même chez les plus jeunes, même chez les cadets, tout ça, les juniors.
Mais ça dure pas longtemps. Non, mais oui, moi mais je.
Parce que t'as parfois des justement quand vous grandissez, vous avez qui est le leader générationnel. Vous êtes tout peut-être un peu construit là-dessus. Ouais, qui est le meilleur de France, David en judo. Qui est le meilleur en tennis, Bennett.
En vélo, il y avait du monde.
Toi, Marc, tu t'es jamais construit là-dessus. C'est quoi? Tu te concentrais sur toi.
Bah moi, je me concentrais sur moi, mais j'étais pas dans des. Je me suis jamais retrouvé dans des situations telles qu'on veut décrire la rivalité et la revanche.
T'as jamais eu au départ d'un Paris-Roubaix, par exemple.
Comment?
T'as jamais eu au départ d'un Paris-Roubaix avec que tu voulais taper absolument?
Non.
Ils voulaient tous les taper.
Non. Une fois, Roubaix, tu viens pour gagner. Tu viens pas pour battre un tel ou un tel. Ah, tu viens pour gagner une course.
Ah, mais toi, de toute façon, au départ, tu vas dire c'est une revanche sur moi-même. T'es capable de nous dire.
Non. J'étais pas en revanche. Non. J'étais plus dans l'accomplissement de mon propre destin.
De ton propre destin. Exactement. Tu nous le dis souvent. Ici, c'est un mot que tu utilises souvent et qui est important dans ta construction.
Je pense le. Le destin en sport, c'est quelque chose d'important. On est fait ou on n'est pas fait pour quelque chose.
T'es accroché à ces dimensions mystiques et même aux courses qui le sont également et qui le.
Évidemment. C'est comme ça que je ressens le sport. Peut-être qu'on peut le vit, on l'interprète différemment et c'est tant mieux.
C'est de savoir ce qui vous anime tous dans la haute performance. David, tu voulais acheter quelque chose?
Non, mais Julien, pour gagner et. C'est peut-être un petit message aux plus jeunes, etc., etc. S'ils aiment la gagne, s'ils ont envie de gagner, la revanche, sous-entendu la frustration, sous-entendu la rancœur, sous-entendu même on pourrait dire la colère, c'est vraiment de la pollution qui ne sert strictement à rien. Voilà. Si on est capable de mettre ça de côté et de n'être que dans la construction du présent pour optimiser tout ce qu'on peut faire, c'est les meilleures clés pour gagner. Le sens du mot revanche, enfin en tout cas la terminologie de ce mot-là, en réalité, il n'est pas bon pour le futur.
C'est un carburant négatif, tu penses, toi, en fait. C'est pas quelque chose qui te pousse vers le haut.
Il y a peut-être un sport où, dans lequel la revanche, avec tout ce que ça. Exactement.
J'étais sûr que tu allais dire ça.
Bon, bah voilà, je me tais. Vous disiez.
Ah non, pourquoi ?
Il y a un côté mystique,
dans ce que tu es.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Mais bon, Bennett, pourquoi tu dis ça, après, David ?
Parce que c'est. Le contexte est plus ou moins le même, c'est le même ring, les deux mêmes boxeurs, à quelques mois d'intervalle, on va dire à 4 ou 5 mois, et il va y avoir l'analyse de la part des deux clans. Où est-ce que tu l'as battu, comment, pourquoi, où est-ce que toi t'as perdu, qu'est-ce qu'il va falloir renforcer. Et donc ce côté, et puis aussi il y a le côté, quand on parle de revanche, quand on dit revanchard, il y a un peu le côté bataille, bagarre, combat.
La boxe est vraiment construit, construit son schéma autour
Tu vois, Julien, précisément, quand t'es dans un sport de combat et que tu parles de bataille, de bagarre, eh ben t'as dit les deux mots pour perdre. C'est-à-dire un combat, c'est tout sauf de la bagarre et c'est tout sauf de la bataille.
Ah mais...
Un combat pour le gagner, ce n'est que de la réflexion, ce n'est que de la stratégie, ce n'est que de la lucidité. Si tu te laisses aller dans la bagarre, t'es archi mort.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, Mohamed Ali, quand il perd contre Joe Frazier, son carburant, c'est aussi de le retrouver pour le battre et de retrouver son statut.
Casser la gueule,
il s'est pas bagarré.
Notion de revanche, comme le disait peut-être Marc, il y a quelque chose de plus mystique. Ali, il se bat aussi pour montrer une sorte de résurrection. Mmh. C'est-à-dire que, regardez, vous m'avez donné comme mort et je revis, en fait. Il va chercher quelque chose de différent, David. Mais David, toi, c'est aussi ce qui t'arrive quand plus personne peut-être ne croit en tes capacités à être champion olympique à nouveau. Ce que tu vas chercher, c'est pas la revanche, c'est la résurrection.
Oui, c'est ça. Tu tel le phénix, tu renais de tes cendres, quoi. Tu dis voilà, je suis pas mort. Regardez, j'ai travaillé. Voilà le niveau auquel j'ai réussi à revenir. Mais t'es pas dans l'aigreur ni la frustration ni le passé.
Mais vous pensez pas. En tennis, Bennett, Yannick Sinner quand il perd en finale de Roland Garros contre Alcaraz au bout de 5 heures, il pense pas à prendre sa revanche un mois plus tard à Wimbledon. Moi, j'ai l'impression que ces deux-là s'alimentent sur un coup, je vais gagner. Est-ce que c'est la revanche ou est-ce que c'est la rivalité?
Ils vont pas forcément le dire, mais ils vont forcément y penser.
C'est les deux. C'est une rivalité.
Comme Rafa et Roger
Federer. Ouais, c'est les deux. C'est revanche et rivalité.
Non, mais après, t'as plaisir à rencontrer quelqu'un qui est plus fort ou aussi fort que toi, parce que t'es pas dans leur revanche. T'es dans le duel. Le duel qui continue. Tout à l'heure, on parlait de Senna et de Prost. C'en est l'illustration. Le duel. Duel continue. Voilà, il y en a un qui gagne. Le duel continue. Ah bah, c'est l'autre. Le duel continue. T'es dans un espèce de duel perpétuel. Vois les deux athlètes grimper ensemble, créer une émulation réciproque.
Parfois négative. Parfois négative. Entre Prost et Senna.
Mais faut surtout pas que ce soit négatif, pour le coup.
Marc.
Il y a une image qui me revient à l'instant, c'est... quelques secondes après l'arrivée de Paris-Roubaix cette année, quand Van Aert bat
Poggi,
et le premier qui vient féliciter Van Aert, c'est Van Der Poel. Ouais. Et pour avoir suivi plusieurs affrontements entre les deux, notamment en cyclocross ou ailleurs, quand l'un faisait premier, l'autre faisait deuxième, il n'y avait pas cette osmose et cette communion qu'il y avait entre les deux qu'il y a eu au moment de l'arrivée de Paris-Roubaix. J'ai trouvé ça très particulier. Et je suis sûr d'une chose, c'est que Van Der Poel ne faisait pas semblant. C'est-à-dire que, il avait retrouvé
son vrai rival.
Il avait retrouvé celui qui l'a fait se sublimer.
Exactement.
Et je suis persuadé que dans les mois qui viennent, ou dans les courses qui vont arriver, à un moment ou à un autre, on va retrouver le match Van Der Poel-Van Aert au meilleur de leurs capacités, l'un et l'autre.
Mais, tu vois, et est-ce qu'on va retrouver
Marc, t'as tout dit. C'est exactement ça, t'as tout dit. En fait, ton plus grand rival, ton plus gros bel adversaire, mais tu l'adores parce que c'est grâce à lui que tu vas au bout du bout du bout. C'est grâce, tu t'appuies sur ses énormes qualités pour essayer de faire mieux. Et ça devient une espèce de compagnon de route qui, C'est quasiment plus un adversaire, c'est un partenaire de route, tu vois.
C'était le Japon.
Mais, non,
le Japon,
mais oui, ça. Mais c'est vrai. Je t'assure. Et là, il y a un respect. On pourrait parler d'une forme, d'amour, quoi, ouais, vis-à-vis de l'autre. Tu vois, on n'est plus dans, je te hais, je vais te casser la gueule, etc. Non, c'est l'inverse. T'es tellement bon que grâce à nos duels, eh ben, tous les deux ont grandi ensemble. Ok, tu me bats, je te bats, etc., etc. Mais il y a un partenariat qui s'instaure, qui est juste magnifique.
Eh ben, c'est le cas de Prost Senna. Et on en parlait tout Exactement. À l'heure de ce petit message que Senna envoie à travers les médias à Prost quelques heures avant de se tuer. Voilà, ben, on s'est affronté, on s'est détesté. Ils se sont vraiment détestés, je pense. Ces deux-là, ça a été vraiment une détestation. Ils étaient prêts à sur les derniers Grands Prix de la saison à Suzuka, quand le titre se joue, l'un et l'autre se mettent dehors. C'est un sentiment de revanche. Tu parlais de choses négatives, David, tout à l'heure. C'est une revanche qui a été parfois toxique entre les deux.
Ils ont évolué. Après,
n'était plus là. Là, il s'est senti seul, abandonné.
L'une des plus belles images, c'est qu'à la fin,
il porte le cercueil.
Il se demandait d'ailleurs
s'il serait le bienvenu au Brésil.
Exactement. Alors que je pense que 5-6 ans avant, c'était inimaginable. Mais oui, alors là, on parle de rivalité, de duel, de ce qui se fait de mieux au monde dans chaque discipline. Van der Poel, Van Aert, c'est exceptionnel. Prost Senna, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, Sinner Alcaraz, ça a repris le flambeau des Roger, Rafa, Djoko. Et donc, quand ils atteignent ce niveau-là,
le sublime.
Et en fait, ils se subliment mutuellement et il y a une forme de respect qui arrive. Et quand tu dis que Van der Poel va féliciter Van Aert parce qu'il sait ce que ça signifie pour Van Aert de gagner Roubaix, lui, il l'a déjà gagné 3 ou 4 fois, Van der Poel. Van Aert était toujours entre guillemets dans l'échec sur cette
épreuve. 3 maisons, enfin, il avait tout eu contre lui, quoi.
Effectivement, il fait pas semblant. C'est pas un adoubement, mais il dit OK. Tu l'as mérité, tu viens de le faire. En plus, t'as battu Poggi, bravo. Enfin voilà. Et leurs prochaines retrouvailles n'en seront que plus belles. Et ça, c'est vrai, c'est le narratif de chaque duel, revanche, que tu veux, rivalité. Quand c'est au sommet de chaque sport, qui suscite l'admiration.
Non, mais c'est, de toute façon, tu as dit le mot juste, c'est le narratif qu'on installe, nous aussi, médias, quand on raconte le sport. Voilà, c'est la revanche. Regarde, on a parlé de l'UBB tout à l'heure. On ne fait que parler de l'UBB dans la revanche avec le Stade Toulousain. Dans ce qui les constitue, c'est d'aller gagner. Enfin, on va parler du Giro dans une semaine. Vingegaard va prendre le départ. Il n'arrête pas de dire, cette année, c'est moi qui vais gagner le tour. Il a gagné 2 fois, Pogacar, les dernières années. Ça va être mon tour maintenant. Il est, lui, dans sa construction comme sportif de haut niveau aujourd'hui, dans l'idée de prendre sa revanche sur Tadej Pogacar. C'est pas que les journalistes qui le font, c'est aussi les sportifs eux-mêmes.
Oui, mais le fait qu'il annonce ça, le duel,
je pense qu'il en a besoin.
Exactement, mais ça veut dire que le duel sur le tour, quelle que soit l'issue, on aura une forme de respect. Vingegaard, s'il perd contre Pogacar, en ayant tout annoncé, en ayant fait tous les efforts, il irait voir Pogacar en disant...
Mais non, mais le duel,
Et si Pogacar.
Mais Pogacar, il est rentré dans la tête de Vingegaard.
Je suis sûr qu'il aura cette forme de respect en disant que le mec, il a été capable de venir me chercher et de me battre là-dessus.
Moi,
je trouve
que Vingegaard, c'est Poulidor maintenant.
Peut-être, mais on verra.
On va voir. Il a gagné les Tours de France, Vingegaard, qui va essayer de gagner le Giro pour la première fois et gagner tous les grands tours. On en parlera la semaine prochaine au départ du Giro d'Italia. On ferme la porte du vestiaire, les amis. Attention, dans quelques instants, il y aura une revanche au jeu du sport. Peut-être ou pas. On va voir s'ils seront dans la même équipe, Christophe Cessieux et Julien Beneteau.
Tu crois qu'ils vont être dans la même équipe?
Je sais pas. J'ai pas décidé encore.
Tu fais jamais gagner le généraliste.
Les Bressons.
Allez, on revient dans un instant. On va parler de Paul Sexas, justement, décision imminente sur sa participation ou pas au Tour de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Dans un instant, les jeux du sport. Tiens, sur la thématique de la revanche, j'ai un message de Seb sur WhatsApp 06 12 424 424 qui me dit « La revanche a été un moteur pour moi, ancien gardien de hand. Un joueur au match aller m'avait fait la misère, il m'avait mis 10 sur 11 au tir. Au match retour, je voulais tellement prendre ma revanche sur lui. » Il a fait 0 sur 12. Ça m'a émis un regain de motivation. Voilà, ça sert parfois de se trouver un rival ponctuel. N'est-ce pas, Christophe? Tout à l'heure pour les jeux du sport.
Tu vas lui mettre une rousse à Veneto.
Tu vois, mais là, David te dirait.
Ouais, c'est pas bon.
Tu devrais pas te servir de ça.
Il nous a mis une fois ensemble. Il a vu ce que ça a donné, à mon avis.
les amis. En cyclisme, la grande annonce de Paul Sexa, c'est imminente.
RMC, les GG sur le buzzer.
Impressionnant, Paul Sexa, dans cette montée de la côte de la Roche-aux-Foncons.
Et tel le phénix, il ressort de sa boîte, comme ça, il gagne.
Pour l'instant, Paul Sexa, c'est très, très, très bien accroché à la roue de Tadej Pogacar.
C'est solide, il peut quasiment plus lui rien arriver.
Oh, c'est dur pour Paul Sexa. Donc, faut garder, eh bien, cette position, on va chercher de pur, et c'est terminé. Oh non, allez, c'est terminé pour Paul Sexa.
En lui mettant une pression comme ça, ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out.
Ça y est, Tadej Pogacar est parti. Ah, oh, il a craqué d'un coup, Paul Sexa.
Rien le sert de courir, un point. Là.
Tel le lapin et la tortue avait démarré le.
Quand même, une caméra isolée sur Christophe Cessieux, quand les autres commentateurs sont mis en difficulté, ils s'exclament.
Au purée, et je n'avais pas entendu en fait. Le haut purée de
Léna Marjac, commentaire de ski. Voilà,
au purée. Je
ne sais pas quoi dire quand la skieuse tombe. Oh purée. On l'adore, Léna, on l'embrasse. J'adore. On devrait savoir, les amis, dans les prochains jours, la semaine prochaine, si Paul Sexa participera ou pas au prochain tour. Alors, selon nos infos, la tendance, elle est quand même très favorable pour le voir sur les routes de la Grande Boucle cet été. À 19 ans, le Français a crevé l'écran en étant seul à suivre Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Il a remporté le Tour du Pays Basque. Mais Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour en 85, comme son ancien manager Cyril Guimard, qui nous l'a rappelé cette semaine, répète que ce ne serait pas forcément une bonne idée de le voir sur le Tour cet été. Les GG, je vous pose la question. Est-ce qu'on sous-estime la difficulté d'un premier Tour de France pour Paul Sexa à 19 ans? Marc Madiot.
Oui.
David Douillet.
Non.
Bennett ?
Non.
Christophe ?
Oui.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424.
Non, mais logique.
Non, mais c'est intéressant. Bah, tiens,
c'est normal. Je comprends.
Bennett, pourquoi tu dis non ?
Parce que je pense que. Alors, je pense voir vers quoi Christophe et Marc vont nous amener dans la difficulté du tour, au-delà de la course cycliste. Tout ce qu'il y a justement autour. Et je me rends peut-être pas compte de tout cela. Et je dis non parce que je pense qu'il est suffisamment entouré, que lui, il est câblé quand même différemment quand à 19 ans, on est capable d'assumer et d'enchaîner les performances à ce niveau-là. C'est que mentalement, on est différent des autres.
Tu le vois avec le logiciel Mbappé, Marchand, voilà. Wembanyama.
Exactement, exactement. Et je pense qu'il a l'entourage qui va avec et que cet entourage va le préserver des relatives erreurs et des choses qui peuvent lui faire connaître un premier tour difficile dans les à côté au-delà de la course en elle-même.
Tiens, David aussi, on va écouter les noms d'abord. Tu suis Bennett ?
Ouais, bah, évidemment que je le suis. Je pense que comme dit Julien, tout ça est anticipé et que pour moi, je trouve que c'est extrêmement positif pour l'avenir qu'il soit confronté à justement tout l'extérieur, à toute cette folie qu'il y a à l'extérieur. Parce que s'il la découvre au moment où il va être de plus en plus aguerri et qu'il sera dans les meilleures conditions pour aller mordre les mollets de Pogacar ou de celui qui sera leader de à ce moment-là, eh bien, faudra pas qu'il soit surpris. Donc le fait de le faire, de le mettre tout de suite, de le mettre dans le grand bain, qu'il puisse prendre la température et voir exactement tout ce qui se passe autour, etc., etc.
Il gagne du temps. Sans toi.
Mais bien sûr qu'il gagne du temps. Il prend énormément d'informations, il prendra énormément de recul et énormément d'expérience. Parce que ce qu'on lui demande là, c'est pas de gagner le tour, c'est de commencer à y goûter pour justement prévoir des victoires de tour pour les années qui vont suivre. Et que si t'as pas cette prise de température là, tu peux pas le découvrir quand on te demandera de performer.
Alors les cyclistes, Marc et Christophe, la voix de l'intégral tour sur RMC, vous vous dites qu'on sous-estime la difficulté d'un premier tour pour Paul Sexa, Christophe.
Oui, on sous-estime parce que le Tour de France c'est pas une course cycliste, c'est la plus grande course cycliste au monde. C'est 3 semaines de pression incroyable. Les jours qui précèdent le départ, je n'ose imaginer ce qui va se passer autour de Sexas. Je me rappelle de la grande époque de Thibaut Pinot quand il arrive sur le Tour. Les rédactions vont envoyer des journalistes supplémentaires qui vont être chargés de suivre Sexas quasiment au quotidien. Et quand t'as 19 ans que tu es à peine professionnel. Évidemment, il a vécu une saison géniale, mais ça n'a rien à voir avec ce que peut et de la démesure du Tour de France. Donc, non seulement la pression autour de ça, mais c'est aussi quand tu fais le Tour, s'il s'empare du maillot blanc de meilleur jeune, c'est ce qui risque d'arriver assez rapidement. C'est le protocole tous les jours. C'est le tour de tous les médias. Et comme il va y en avoir en plus d'envoyer par toutes les rédactions. Ça va durer des heures.
Mais ça va être l'histoire de sa vie.
C'est de l'expérience à prendre. Après, oui. Il y a aussi un autre truc. C'est que ça, c'est un pur sang. C'est un pur sang qui n'a pas appris à perdre encore. Ou alors, il a perdu de manière occasionnelle. Là, sur un Tour de France, son premier Tour de France, il peut prendre des claques dans la gueule à répétition. Il peut aussi, et j'espère, briller tous les jours. Mais ça peut faire mal au moral si t'es battu au quotidien par un Pogacar, quand t'es un pur sang, quand t'as pas été habitué à ça, je voudrais bien voir sa réaction. Mais Pogacar, elle lui met 3 ou 4 minutes dans chaque
tu veux dire, gare à l'enthousiasme.
Ouais, même pour lui.
Il faut quand même être conscient de ce que c'est. Voilà. Alors, Marc, j'attendais pour te donner la parole, évidemment. On sous-estime
ce qu'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est 3000 km de course, c'est à l'identique du Giro ou de la Vuelta, sauf que autour du Tour, il y a une autre course. Il y a une course quotidienne avec le temps, parce que en fait, quand vous êtes coureur sur le Tour de France, que vous soyez jeune, débutant ou ancien, vous rentrez dans une lessiveuse. Vous rentrez dans une lessiveuse qui vous mine, qui vous dévore jour après jour. En termes de temps, en termes de timing, votre journée est complète et remplie en permanence. Avant la course, pendant la course, on est à outrance parce que c'est les meilleurs du monde qui sont là pour la course la plus importante de la saison. Donc le niveau physique, le niveau d'intensité est supérieur à un Giro, à une Vuelta. Et surtout dans l'après-course, on est aussi dans une autre course. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect médiatique, le côté pression public, supporters, médias, le côté sponsors qui sont présents et les attentes autour de la course font que le jeune coureur ou l'ancien coureur n'est tranquille et n'a du temps pour lui qu'au moment où il rentre dans sa chambre après le massage et après le dîner. Le Sexas et les autres coureurs ne sont tranquilles qu'à partir de 22h30 au mieux.
Marc, tu as été avec un coureur qui a joué le podium sur le Tour.
Oui, mais on n'était pas dans la même configuration.
Oui, bien sûr, mais le Tour où Thibaut joue le podium, c'est un tour complètement différent de tout ce que tu as fait.
On n'était pas prêts. On était comme les équipes à l'époque. Voilà. On avait un attaché de presse ou une attachée de presse avec dans la vie de l'équipe. Donc il y a un moment où tu te trouves débordé et submergé par tout ce qui entoure la course.
Oui, mais ça.
Je pense que aussi bien pour Paul que pour son équipe, ils ont, à mon avis, mais après c'est eux qui décident. Après il y a les histoires de contrats, d'avenir et autres. Si j'ai un contrat de 5 ans ou 6 ans avec lui. Je prends mon temps et je regarde ce qui se passe et je ne vais pas au Tour de France cette année pour compléter mon bagage technique parce que il a 19 ans et tant mieux et il est déjà extrêmement costaud. Mais il y a des situations de course qu'il n'a encore jamais rencontrées. C'est normal, il a 19 ans. Et donc il a besoin de s'agréer. Moi je pense que Sexas, le jour où il vient au Tour, c'est pour le gagner.
C'est ce que dit.
Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, au-delà de tout ce qui entoure la course, c'est l'aspect psychologique de ce qu'est le Tour de France et de ce qu'est la rivalité avec un coureur comme Pogacar. Pogacar, c'est quelqu'un qui détruit ses adversaires mentalement, les uns après les autres, voire même ses propres équipiers ou coéquipiers. Il y a plein d'exemples comme ça, dans le temps où des gens sont allés trop. Sont allés trop vite et trop tôt dans un grand tour. Christophe, tu vas t'en souvenir. Moi, j'ai le souvenir de Silvano Contini, un brillantissime coureur italien, qui s'est retrouvé confronté à Bernard Hinault. Il rivalisait avec Bernard Hinault dans un tour de Lombardie. Il termine deuxième, Bernard ne le bat qu'au sprint. C'était la nouvelle star du cyclisme italien. On s'est retrouvé, et j'y étais dans ce Giro, c'était mon premier grand tour en 1982.
Contini, Prime et Baron-Kelly étaient dans la même équipe Bianchi. Un jour, sur une étape, ils ont mis 3 minutes au blaireau. Contini avait le maillot rose sur le dos. Il était la nouvelle star du Giro. Le lendemain ou le surlendemain, il faudrait demander à Cyril ou à Bernard, ils s'en rappellent mieux que moi. Le lendemain ou le surlendemain, Cyril dit « Aujourd'hui, on met en route. Vous roulez à mort jusqu'au pied du dernier col et là, le blaireau va dégainer. » On est arrivé au pied du col, pleine balle. Ça n'allait jamais assez vite. Le blaireau disait « Encore, 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 encore. » On est arrivé au pied du col. En 500 mètres, Silvano Contini a compris qu'il ne gagnerait jamais le Giro. Et il n'a jamais gagné le Giro. Exemple, au Tour d'Espagne, avec Julián Gorospe et Bernard Hinault, toujours le même. Bernard, un gentil garçon, mais un tueur sur le vélo. Il a tué Gorospe en une étape. Gorospe avait le maillot amarillo sur le dos. Avec la complicité de Laurent Fignon, Hinault a atomisé Gorospe qui ne s'en est jamais remis de sa carrière.
Mais sous-estimons le pouvoir destructeur
Donc, moi je m'appelle aujourd'hui Sexage, je prends mon temps. Je m'arme mentalement et physiquement pour affronter Pogacar. À l'heure où moi je serais prêt.
Bien sûr, David,
pas, Marc, par rapport à
David, tu dois t'as détruit plein de carrières.
Mais non, mais et Marc, je jure, dans ta démonstration, tu as expliqué ce que doit être Paul Sexas.
Oui, c'est-à-dire mais que, ce qui n'est pas encore.
Mais il le sera sûrement,
il faut prendre le temps.
Et j'espère qu'il le sera de tout cœur. Mais arrêtez avec ce temps. Je suis désolé.
Je souhaite. Je vais te faire une confiance.
Attends, laisse-moi terminer.
Je pense que tu as raison.
Mais quand tu as en toi, et Bernard l'avait, tu viens de le décrire
Bernard
très précisément.
Bernard a pris le temps d'y aller.
Il y a 23 ans.
Mais il a peut-être perdu du temps pour le coup. Tu vois, personne ne le saura, mais c'est comme ça. Mais quand t'as cet esprit-là cet esprit de tueur, de gagneur, etc., tu l'as 19, tu l'as 17, tu l'as 16, tu l'as 15, et mais tu l'as 25 à 30 et à 35.
Je t'assure,
c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous racontez des histoires. Parce que t'as cet esprit. Mais il est au fond de toi cet état d'esprit. Oui. Je suis désolé. Et même si tu prends des claques, je t'assure que cet état d'esprit, il ressurgira. Il arrivera, quoi qu'il arrive, même s'il prend des gifles. Et c'est lui qui rentrera dans le cerveau de Pogacar. S'il doit être le numéro un mondial. Je t'assure que c'est vrai. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Parce que si c'est atelier, c'est atelier maintenant.
Exactement.
C'est clair.
Voilà. Pour David, si c'est l'élu, il faut aller se confronter tout de suite.
Exactement.
Au plus dur. Ben voilà.
Parce que c'est en lui. C'est en lui. Ça se construit pas. C'est quelque chose que t'as en toi, point barre.
Et en 88, t'avais 19 ans, t'étais 3e au championnat d'Europe junior, David. T'étais pas encore champion olympique.
J'ai battu champion olympique au Tour de Paris, mon pote. Voilà.
Allez, dans ta tête, mon pote.
Le coréen chaud. Voilà. Après, je me suis fait détruire.
T'étais pas encore au jeu.
Mais j'avais battu le champion olympique en titre. Tu vois,
il avait battu le champion olympique, mon pote. T'as pas compris.
J'adore.
Il a attendu. Il y a le champion qui revient.
Mais c'est vrai.
En 92, t'es pas champion olympique et pourtant t'as plus de 19 ans.
Décision imminente pour Paul Sexas dans les prochains jours sur sa participation ou pas au Tour de France. Ça va continuer à animer nos débats. On en est sûr. Allez, on revient dans un instant pour les jeux. Va-t-on avoir une revanche ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Derrière la ligne droite, tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous défendez un auditeur ou une auditrice. On va utiliser le thème de la revanche aujourd'hui, puisque je vais permettre à Julien Beneteau et David Douy de rejouer ensemble les Bressans pour essayer de garder la main. Face donc aux cyclistes Marc Madio et Christophe Cessieux qui vient en vélo tous les jours au travail.
Et qui a aujourd'hui un stylo.
Voilà. Comme quoi l'expérience, à un moment donné, ça sert. Après avoir tellement perdu. Je vous rappelle que vous pouvez activer la question.
Je prends le match sans aucune pression. Là,
tu vois, mais j'ai l'impression que tu l'abordes jamais bien.
Non.
Je rappelle que vous pouvez activer la question impossible.
Si tu me feras perdre.
3 points pour une bonne réponse. Les mauvaises réponses, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs. Philippe et Aurélien. Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour.
Philippe nous appelle de Corrèze. Aurélien de Vendée.
Choisissez les Bressans.
Philippe, tu choisis quelle équipe ? Cessieux Madio ou Douillet-Bennett ?
Bennett.
Douillet-Bennett, c'est Bennett.
Aurélien avec Cessieux Madio. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un badge télépéage d'une valeur de 150 euros. Allez les GG, c'est parti, concentrez-vous. S'il vous plaît, question à une seule réponse. Qui a gagné l'an passé le Grand Prix de Miami ?
Norris.
Piastri. Oscar Piastri l'année dernière. Un point pour les Brésiliens.
Vous m'entendez?
T'as entendu, t'as pas donné la bonne réponse. Ouais, donc c'était Piastri.
Ah bon, d'accord.
Voilà, t'inquiète, il n'y a pas de problème. 1-0 pour les Brésiliens. Question, qui a dit cette semaine, la France a trouvé un coureur capable de remporter à nouveau le Tour.
Van der Poel,
Marc Madiot.
Bien joué, Marc.
Un partout. Question auditeur, c'est pour vous, Philippe et Aurélien. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom pour que je puisse identifier. C'est OK pour vous, les gars? Philippe et Aurélien? Allez, c'est parti. Qui est leader du championnat d'Italie de football?
L'Inter.
C'est Philippe. Qui? Philippe. Un point pour l'équipe Douillet-Bennett.
Bien, Philippe.
2-1. Question à une seule réponse, les GG. En tennis, qui est le numéro 4 mondial actuellement?
Shelton.
Non, chez les garçons.
Djokovic.
C'était Novak Djokovic, oui, toujours. Ça changera peut-être demain, on verra. Question à une seule réponse. Combien de fois Lyon a gagné
6
la Ligue des Champions féminines, Julien Beneteau? 4-1. Attention, ça commence à faire.
On n'avait même pas entendu la
question. Ah oui, il est dans ma tête, que je voulais que je vous dise.
Oh là là là.
Question auditeur, c'est pour vous, Philippe et Aurélien. Quelle équipe a gagné la Champions Cup en rugby l'an passé?
Toulouse.
Non.
Bordeaux-Bègles,
Philippe.
5-1.
Allez les amis, question à élimination. C'est parti pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. La semaine prochaine, nous serons au Grand Prix de France de MotoGP au Mans. Sachez-le, dimanche, les grandes gueules du sport. Citez-moi, s'il vous plaît, tous les Grands Prix de la saison de MotoGP. On commence par Christophe.
Grand Prix de France.
Grand Prix de France, c'est bon. David.
D'Espagne.
Espagne, c'est bon. Marc.
Italie.
Italie, c'est bon. Bennett.
Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne, c'est bon. Christophe.
Des États-Unis.
Des États-Unis, c'est bon. David.
Australie.
Australie, cette année. Oui, c'est bon. Marc.
Pays-Bas,
c'est bon. Bennett. On cherche les grands prix de la saison de MotoGP.
En Malaisie.
5. Malaisie, c'est bon. Christophe.
Allemagne,
c'est bon. David. 5. 4.
Portugal,
c'est bon. C'était des villes aussi, hein, je vous le dis.
Comment?
Marc.
San Marin,
c'est bon. Bennett. 5. 4.
Japon.
3. Japon, c'est bon. Christophe.
Léon.
Grand
Prix de Léon. Ça existe.
Non, ça n'existe pas.
Je croyais qu'il y avait un en Espagne.
Ouais, le Grand Prix d'Ardèche. Éliminé. David. 5. 4. 3.
Autriche.
2. Autriche, c'est bon.
Autriche.
Marc.
Ah, il me l'a pris.
5. 4. 3. 2.
Ouais, je suis sèche.
Éliminé. Bennett.
Qatar,
c'est bon. Le point est pour l'équipe Beneteau. Douillet. Ça fait 7. Question impossible, Bennett.
Ah oui, stratégie.
Ah, il est insupportable. Allez, c'est
bon. Moi, je m'en vais.
C'est pas impossible. Tu vois, mais. Hey. Ça, c'est un vrai stratège. Il fait ça pour
ridiculiser l'adversaire.
Mais non, mais parce qu'au moins, il dit...
Pour enfoncer, pour gagner.
Mais non, mais ça, 10-0. Le temps passe, tu ne peux pas activer la question impossible. Au moins, tu ne peux pas prendre 3 points. Tu aurais pu en venir encore. Hein. Question tennis.
À 10-0, on peut revenir.
Quel est le meilleur classement en carrière? Tu auras une réponse.
Une seule réponse.
De Gaël, mon fils.
Ah,
6.
Mais donne-lui le point, c'est pas grave.
Gasquet, il a été 7, 6.
Moi, je le connais.
C'est 6.
C'est 6.
Non, 6. 7.
6.
6, ouais, je dis 6.
Mais c'est 6. 6.
6.
La bonne réponse était 6. Ouais, ça fait donc 10-1 la victoire pour l'équipe Bennett. Vous voulez une question en plus?
Vas-y encore, vas-y.
Oui. Juste pour voir. Question à une seule réponse. Nous sommes en 2026. Où se disputaient les JO d'été il y a 30 ans?
À Montréal.
Atlanta, Bennett.
Ah non, 40 ans, Montréal.
Attendez, tiens. Bon, écoutez, je crois que la victoire est totale.
Bravo.
Bravo à Julien Beneteau et David Douillet. Philippe, c'est toi qui remporte le TDPH.
Ouais, bravo à David aussi, merci.
Ah, bah quand même.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec Fouli, votre marque de télépéage préférée notée 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Fouli, télépéage, parking, carte de recharge électrique.
Ah oui, David, enfin quelqu'un qui valorise ton apport au jeu du sport. Il fallait quelqu'un. Merci David, merci Bennett. La revanche n'aura pas servi à Christophe Cessieux. Marc Madio, merci beaucoup. On se retrouve le week-end prochain.
Christophe,
et je vous le disais.
Position du Lotus, Christophe.
Alors là, je suis zen. Mais ce jeu n'a plus aucun intérêt.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, je vous rappelle que dimanche prochain, on sera au Grand Prix de France. Au Mans, venez nous voir. Merci les amis. Les paris RMC arrivent tout de suite.